7h25, la ministre des Finances du Canada, Mme Freeland, a présenté hier la mise à jour économique. C'est un déficit anticipé pour l'exercice actuel de plus de 381 milliards. C'est quarantaine de milliards de plus que ce que Bill Morneau avait prévu. Et on prévoit d'ailleurs que les gros déficits vont s'accumuler au moins pour les 5 prochaines années. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est avec nous. Monsieur Trudeau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Est-ce qu'il y a une limite à ce que vous pouvez dépenser ou si dans le contexte actuel, vous dites c'est un bar ouvert et on dépense tant qu'on peut?
Ben non, il y a toujours des limites. Il faut rester responsable, mais en même temps, on sait qu'on est entré dans cette pandémie dans la meilleure position fiscale de tous les pays du G7 et on est en train d'utiliser ça pour aider les gens. On a fait la promesse qu'on allait être là pour les gens et c'est exactement ce qu'on a fait avec 8 $ sur 10 de tout l'argent pour les Canadiens pour passer à travers cette pandémie venant directement du fédéral.
Alors, quelle est votre limite?
La limite, c'est quand on passera à travers cette pandémie. Ce déficit dont vous parlez, là, il est axé sur deux choses. Il est axé sur l'aide aux entreprises avec la subvention salariale et l'assurance-emploi, la PCU. C'est ça qui coûte parce que c'est de l'argent qu'on donne directement aux Canadiens. Et dès qu'on passera au-delà de cette pandémie, ces dépenses-là vont réduire massivement. On n'est plus dans un déficit structurel comme on l'était dans les années 90. On est dans un déficit ponctuel, contextuel, parce que d'aider les gens à passer à travers, c'est la meilleure façon de protéger l'économie pour le moyen et long terme.
C'est parce que les gens veulent bien vous croire, sauf que vous aviez dit, quand vous avez pris le pouvoir, on va faire des déficits, il faut investir, bon, entre autres en infrastructure, mais on va, au bout de l'expérience, revenir à un déficit zéro. Avant la pandémie, le déficit canadien était quand même élevé. Ma question, là, c'est est-ce que vous vous dites, après 400 milliards, on ne peut pas aller plus haut ou si on peut aller à 425, à 430, l'an prochain, 175 s'il le faut?
Comme on a dit, on va revenir à des déficits de 20-25 millions de dollars, milliards de dollars dans 5 ans. C'est un retour à la normale et à une décroissance du ratio dette sur comme pourcentage de la taille de notre économie. Mais, M. Arcan, quand quelqu'un emprunte sur sa carte de crédit, il paye 19% en intérêt. Le gouvernement fédéral emprunte aujourd'hui à peu près 0%. Donc, nous, on est en train, oui, de s'endetter un petit peu maintenant pour éviter que les gens, les travailleurs, les entreprises aient à s'endetter encore plus parce que ça va faire mal à la reprise économique quand on passera à travers de cette pandémie. Donc, faire ce qui est nécessaire maintenant pour appuyer les gens, c'est la meilleure façon de passer à travers et la crise sanitaire et la crise économique.
Si on regarde sur un horizon, disons, moyen terme, est-ce que vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts, à ne pas augmenter les taxes des Canadiens?
Absolument. On s'engage à ne pas faire ça parce que les gens n'ont pas besoin de plus de dépenses ou plus de taxes et ils ont besoin d'être appuyés et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Mais ce qu'on est aussi en train de faire, c'est qu'on va aller sur la taxation des géants du web. On est en train d'assurer que tout le monde paye la TPS, la TVQ en termes de Netflix et Spotify, tout ça. On est en train de s'assurer que tout le monde va payer sa juste part, mais les contribuables, les citoyens, vont pas avoir à payer plus d'impôts.
OK, vous vous engagez à ne pas augmenter, par exemple, la TPS, à ne pas augmenter les impôts pendant combien de temps?
Écoute, on est dans une crise maintenant et on n'a aucune intention d'augmenter ces impôts. Depuis les débuts, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté les impôts pour les 1% les plus riches quand on est arrivé au pouvoir en 2015 et on les a baissés pour tout le monde. On va continuer de chercher à baisser les impôts pour les gens.
Mais là, je vais être obligé de reprendre ce que vous m'avez déjà dit un jour, là, parce que vous augmentez le fardeau fiscal des Canadiens dans votre discours hier, là.
Non.
Oui, bien, parce que le jour où vous taxez les géants du web, quand je vous demandais pourquoi pas taxer Netflix, pourquoi je ne payerais pas la TPS alors que Vidéotron, je la paye, m'avait dit l'objectif du gouvernement, c'est pas d'augmenter le fardeau fiscal des Canadiens. Bien là, je vais suivre votre logique, vous l'augmentez.
Oui, on a fait une promesse en 2015 de ne pas augmenter les, de pas mettre de d'impôts sur Netflix, sur ce que les gens payent à Netflix. Et maintenant, on va le taxer parce qu'on l'a promis en 2019. On a écouté les gens qui disaient d'être équitable envers les compagnies. C'est vous qui m'aviez dit ça aussi. On a été convaincus. On s'est engagé à le faire en 2019. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On garde nos promesses.
OK, mais quand vous m'avez répondu à ça, vous me disiez, l'argument là, puis de votre collègue Mme Joly, c'était de dire on ne veut pas augmenter le fardeau fiscal des Canadiens. Donc, vous l'augmentez, là.
Ben, on est en train de s'assurer d'être équitable pour tout le monde. C'est ça que les gens ont voulu et c'est ça qu'on est en train d'amener. On l'a promis en 2019, mais on avait promis de ne pas le faire en 2015. T'sais, on garde nos promesses. Je sais que c'est surprenant des fois de voir des politiciens qui gardent leurs promesses, mais on le fait, M. Arcand.
OK. Parlons maintenant de ce qui concerne les relations Québec, je dirais l'ensemble des provinces, mais Québec-Ottawa, là. Les provinces, dont le Québec, demandent une augmentation des transferts en santé. Vous dites, bon, il y aura le programme de garderie, c'est déjà implanté au Québec, et il y aura des normes concernant les centres de soins de longue durée, le traitement réservé aux personnes aînées. Ma question, c'est, allez-vous augmenter de façon importante les virements, les paiements de transfert aux provinces en santé?
On a déjà augmenté. Cette année, on a transféré plus aux provinces en matière de santé que n'importe quelle autre année. On a donné des 1 milliard de dollars de plus à cause de la COVID et on a transféré plus que 25 milliards de dollars aux provinces pour la relance économique, pour la rentrée scolaire, pour aider les provinces. Et on va s'asseoir la semaine prochaine avec les provinces pour parler d'ailleurs des coûts dans le système de santé et comment on peut aider et maintenant, et on va regarder pour le plus long terme aussi.
OK, mais là, vous me parlez d'éducation, vous me parlez d'économie. Moi, je vous parle de la santé, là, parce qu'il y a une facture qui est importante chaque année, pas pour le Québec, là. Et le fédéral, puis pas avant vous, là, je pense entre autres à Paul Martin, là. Fédéral est très, très bon pour dire, voici les normes nationales en santé, voici les normes nationales dans tel domaine. Mais à un moment donné, il faut que le portefeuille suive les babines, là. C'est-à-dire qu'on fixe des normes, mais il faut s'assurer du financement pour que ça se fasse pour vrai.
Absolument, et on est en train d'avoir ces discussions. T'sais, on parle de normes nationales. On est en train de regarder dans nos systèmes de soins de longue durée là, qu'il y a vraiment besoin d'avoir des améliorations. Et nous respectons absolument, et nous allons travailler les champs de compétences, nous allons travailler avec Québec, mais on doit faire le constat qu'on a besoin d'améliorer les choses. Et on encourage d'abord, comme première étape, les provinces à regarder c'est quoi les meilleures pratiques d'une place à l'autre pour améliorer les choses. Dans cet énoncé économique, on parle de 1 milliard de plus pour aider aux soins de longue durée pour la prévention d'infections. C'est un enjeu qui est extrêmement important, qui est clé pendant une pandémie et donc cet investissement va aider de façon concrète pour que le Québec puisse reprendre contrôle de la situation dans les CHSLD.
OK, mais M. Trudeau, vous savez très bien là, qu'on est dans des enjeux plus importants qu'un milliard. Puis ce que les provinces demandent, et je répète, pas que le Québec, là, c'est qu'on gère les centres de soins de longue durée, il y a un vieillissement de la population, les coûts augmentent de façon globale, les coûts en santé sont supérieurs à l'inflation. Le fédéral détermine des normes très bien. À quelle heure le chèque?
Non, on est en train de transférer plus d'argent à chaque année pour les transferts de santé aux provinces à chaque année qu'il n'y a jamais eu. Là. Cette année, on en transfère plus. On va en faire encore plus l'année prochaine. On est en train de travailler avec les provinces pour regarder exactement ce qu'on a besoin. Mais avant d'engager, comme je reviens à la première partie de la conversation, M. Arcand, où vous me posiez la question quand est-ce qu'on va commencer à réduire de façon structurelle les déficits, il faut faire attention en ajoutant des dépenses structurelles comme des milliards de plus à chaque année pour les transferts en santé. Oui, on va en faire. Oui, on va s'asseoir avec les provinces pour regarder c'est quoi le niveau pour pouvoir assurer des bons soins de santé pour tout le monde. Mais c'est une conversation que ça fait des mois que je dis oui, je vais avoir avec les premiers ministres, puis j'ai hâte de l'avoir la semaine prochaine.
OK. Là... Et là, je vais traduire ce que beaucoup de gens, je pense, expriment. M. Trudeau, vous êtes très, très bon pour exprimer des points de vue. Sur la langue française, vous avez dit, oui, il faut protéger le français qui est menacé. Sur les armes, vous êtes venu à cette émission m'expliquer qu'il y aurait un contrôle plus serré des armes d'assaut, des armes de poing. Aujourd'hui, à la veille du triste événement de Polytechnique, du tragique événement de Polytechnique. Les victimes vous disent, mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites pour la langue? Qu'est-ce que vous faites pour mieux contrôler les armes à feu? Vous parlez, mais quelles sont les actions concrètes que vous posez?
L'action concrète d'abord, il est maintenant interdit d'acheter ou de vendre des armes d'assaut au Canada. On a fait ça au mois de mai, et je comprends qu'on était peut-être en pandémie, alors vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, M. Arcan.
Non, je l'ai remarqué, mais j'attends de voir pour les armes de poing où vous pelletez la responsabilité vers les villes.
Ben, non. On est en train de donner aux villes la capacité d'interdire les armes de poing.
Mais pourquoi ce sont les villes? Pourquoi Longueuil le permettrait, Montréal pas, Laval peut-être?
Ben, parce qu'on est dans une situation où idéalement, ce seraient des provinces qui voudraient le faire, mais on a beaucoup de provinces, y compris des provinces de l'Ouest, où il y a des premiers ministres conservateurs, qui ne veulent pas permettre même à leur ville de bannir des armes de poing. Et nous, on va travailler pour pouvoir permettre aux villes à travers le pays de le faire s'ils veulent. Je sais que c'est pas idéal, mais c'est une étape concrète qu'on est à veille de faire.
Parlons des vaccins. Là, est-ce que je vous comprends bien que l'objectif le plus réaliste, c'est qu'environ la moitié des Canadiens soient vaccinés en septembre 21?
On espère pouvoir faire plus que ça, mais on sait que, d'abord, ça n'existe pas de vaccin contre le coronavirus. Il n'y en a pas un qui a été approuvé nulle part dans le monde. Alors, on commence avec ce constat-là. Il y a une douzaine de compagnies à travers le monde qui sont en train d'essayer d'y arriver le plus rapidement possible. Et parce qu'on ne sait pas quelle compagnie va arriver en premier, quel vaccin sera le plus efficace ou le mieux pour les Canadiens, on a signé des contrats avec le plus grand nombre de compagnies pour le plus grand nombre de doses par personne que n'importe quel autre pays. Parce qu'on sait que ça prend un vaccin pour passer à travers de cette pandémie. Et donc, on est dans une des meilleures positions de tous les pays dans le monde pour ça. Donc, les Canadiens peuvent être assurés qu'on a un plan, qu'on a fait notre job et qu'on va avoir accès à des... Je pense que c'est 400 millions de doses potentielles pour une population de 37 millions de personnes.
Je comprends, mais c'est pas à vous que je vais apprendre qu'on est dans les demandes pour les approbations aux États-Unis, en Europe, Pfizer, Moderna. Le président de Moderna a dit que le Canada ne serait pas en queue de liste. D'après vous, là, aujourd'hui, ce matin, vous avez l'impression, parce qu'on peut convenir que les approbations, en tout cas, c'est ce que les Américains disent, vont suivre assez rapidement, le Canada pourrait commencer à recevoir ses vaccins quand et à pouvoir vacciner à partir de quel moment, selon vous?
D'abord, par rapport à l'approbation, je peux vous dire qu'il y a quatre compagnies maintenant dont on parle beaucoup dans les nouvelles, Moderna, Pfizer, que vous avez mentionné, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Tous ces quatre sont en train d'être approuvés par Santé Canada à l'heure actuelle. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille avec plusieurs et on est confiant qu'on va pouvoir faire les approbations de façon responsable, de façon complète, mais à temps pour pouvoir distribuer les vaccins dès qu'ils vont commencer à arriver.
Mais vous n'êtes pas en mesure de me dire ce matin, est-ce qu'on parle du mois de février, du mois de mars?
On parle du plus rapidement possible, mais... Comme j'ai dit, c'est les compagnies eux-mêmes qui doivent développer ce vaccin, qui doivent manufacturer ce vaccin. Il n'y en a pas de vaccin contre la COVID-19 encore. Il y a beaucoup d'incertitudes. C'est pour ça qu'on s'est tellement bien positionné à avoir une diversité dans les compagnies de vaccins pour qu'on puisse s'assurer que les Canadiens, quoi qu'il se passe dans les différentes compagnies, on va être assuré d'être bien positionné par rapport au vaccin.
OK. En terminant, quelques questions rapides. Peut-être que je rêve, mais j'ai l'impression que les relations ne sont pas très bonnes avec le Québec. Vous avez envoyé des tests rapides depuis déjà plusieurs semaines. Ils ne sont pas utilisés par Québec pour l'instant. Vous en pensez quoi?
Je pense que chaque province a la responsabilité d'établir une stratégie de dépistage. Nous, on est là pour donner l'équipement nécessaire. Ça fait des semaines et des semaines qu'on a envoyé des tests rapides à travers le pays. Il y a des provinces qui les utilisent. Il y en a d'autres qui prennent un peu plus de temps pour élaborer des stratégies. C'est à eux de faire cette réflexion-là.
Ça a l'air qu'en coulisses, par exemple, au fédéral, on trouve ça un peu bizarre.
C'est qu'on on s'est fait critiquer pendant des semaines de ne pas avoir approuvé assez de tests rapides. Et seulement si on avait approuvé des tests rapides, on pourrait passer au-delà de cette deuxième vague. Or, ça fait plus qu'un mois maintenant qu'on a envoyé des centaines de milliers, des millions de tests rapides aux provinces. Et il y a beaucoup de provinces qui ne sont pas en train de les utiliser. Donc, nous, on a fait notre job. C'est des questions pour les différentes provinces à ce niveau-là.
OK. Maintenant, pour ce qui est des mesures dans le temps des fêtes, je regarde Santé publique Canada qui a l'impression qu'on n'est pas dans la bonne direction, qu'il va falloir être encore plus raisonnable. Québec permet jusqu'à maintenant, puis jusqu'à avis contraire, deux rassemblements de 10 personnes max sur une période de 4 jours là, qui sont autorisés. Trouvez-vous que c'est trop?
Je pense que les gens commencent à trouver 2020 une année extrêmement longue. Et les gens ont besoin d'un peu de répit. Les gens ont besoin de savoir qu'on va pouvoir passer à travers cet hiver en bonne situation. Je comprends que les gouvernements, comme le gouvernement du Québec, essayent de trouver un compromis entre la santé mentale et la santé physique des gens. C'est pas à moi de critiquer ou de juger les provinces. C'est à moi d'être là pour m'assurer qu'ils ont l'équipement et l'information nécessaire pour prendre les décisions appropriées pour leur juridiction. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire.
Et vous allez fêter Noël comment?
On va être dans la famille extrêmement restreinte au chalet.
Et au jour de l'an, toujours la famille restreinte?
Toujours la famille restreinte. Des appels Zoom avec mes amis sûrement, mais rien de plus.
Merci, M. Trudeau. Bonne journée.
Ça me fait toujours plaisir.
Au revoir. Justin Trudeau, le premier ministre du Canada.